السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مي شفاء الإسلام نبوفات محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم nous a donné un enseignement complet concernant la religion, tant concernant les actions de la vie du musulman, tant concernant les aqaïd, les croyances, le dogme islamique. Et parmi les enseignements que notre prophète alayhi salatu wassalam nous a légués, il y a, contrairement aux autres communautés, tous les ashrat al-sa'a, c'est-à-dire tous les signes de qiyamah qui doivent avoir lieu jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire les signes qui auront lieu dans les derniers jours, dans les derniers siècles, dans les dernières années, wallahu alam, de ce dunya, avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à cette terre de s'auto-détruire et qu'Allah azza wa jal ressuscite la création. C'est ce qu'on appelle les ashrat al-sa'a, les signes de qiyamah. Et parmi ces signes de qiyamah, mes chers frères, il y en a deux catégories. Il y a les petits signes de qiyamah et il y a les grands signes de qiyamah. Les grands signes de Qiyamah sont connus, comme la venue d'Imam Mehdi, dans l'ordre chronologique, la venue de Dajjal, de Gog et Magog, de Isa alayhi salam, de Gog et Magog, etc. Ça, ce sont les grands signes de Qiyamah. La majorité des musulmans, hein, nous connaissons quels sont les grands signes de Qiyamah. Maintenant, il y a les petits signes de Qiyamah qui sont plus complexes. Pourquoi plus complexes? Parce que ces petits signes vont s'étendre sur une durée illimitée. Ils commencent à partir de la venue même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils vont perdurer jusqu'à quand? Ben, tout simplement jusqu'à la venue de Imam Mehdi, jusqu'à la venue du premier grand signe de Qiyamah. Et ces petits signes sont parfois complexes et extrêmement nombreux. Il y a des petits signes de Qiyamah qui peuvent être en rapport avec la dépravation des mœurs, le akhlaq. Il y en a d'autres qui sont en rapport avec des phénomènes climatiques, avec le temps qui passe. Et parmi justement ces petits signes de Qiyamah, il y en a qui sont en rapport avec l'affaiblissement de la religion, le recul du niveau, du degré de pratique de chaque musulman et chaque musulmane. Un recul, d'une manière générale, dans la foi en Allah et dans le rahba, dans l'envie de pratiquer la religion. Et une des conséquences les plus lourdes pour cette communauté, c'est ce petit signe de Qiyamah qui est la disparition des gens pieux, la disparition des salihin, la disparition des hommes saints et principalement la disparition des savants. Dans un hadith, le prophète alayhi salat wa salam a dit « Yadhabu salihun al-awwal fal-awwal ». Les gens les plus pieux s'en iront l'un après l'autre. C'est-à-dire que plus on approche du Qiyamah, moins on trouvera de personnes vertueuses, moins on trouvera de grands savants, ce qu'on appelle en ourdou communément des grands bouzouk, on les trouvera de moins en moins. Et le prophète alayhi salat wa salam avait donné l'exemple à des sahaba une fois, ils mangeaient des rutab, c'est-à-dire des dattes fraîches, vous savez les dattes qui sont encore sur les branches. Et lorsqu'il ne restait que les graines de ces dattes, notre prophète alayhi salat wa salam a dit, prenez exemple sur ce qui reste de ce repas, c'est ce qui reste de ces dates. De la même manière, les meilleurs d'entre vous, c'est-à-dire les meilleurs de cette communauté, iront les uns après les autres. Hatta la yabqa minkum illa mithla hada. Jusqu'à ce qu'il ne reste parmi vous, c'est-à-dire parmi ma communauté, ceux qui sont comme ça. C'est un exemple pour montrer que les meilleurs vont partir, il restera les gens qui ont les moins de qualité, qui ont les moins de sifat, jusqu'à la fin des temps. Et une des conséquences les plus lourdes pour cette ummah, c'est réellement lorsque Allah subhanahu wa ta'ala décidera que la science religieuse quitte cette ummah. Ce qui nous distingue, nous musulmans, des yahouds et des nasara et des autres religions, c'est le ilm qu'Allah ta'ala a mis dans le cœur des ulama. Ce ilm qui développe les paroles d'Allah, le ilm tafsir, le ilm qui développe les paroles du prophète alayhi salatu wassalam, ilm al-hadith et toutes les autres branches de la science religieuse, c'est quelque chose que cette umma détient, que les autres communautés n'ont pas. Et c'est ce qui rattache chaque croyant, c'est ce qui rattache chaque pratiquant fermement sa religion. C'est ce qui permet à n'importe quel musulman, depuis l'époque d'Abu Bakr, jusqu'en 2015, 2030, 2050, 3000, Allahu A'lam, ce qui permet à chaque musulman d'avoir la garantie que la religion que je pratique, c'est la même religion qui a été révélée au prophète alayhi salatu wassalam. La manière que je prie, la manière que je fais du'a, la manière que je fais le dhikrullah, la manière que je me comporte, c'est identique au modèle prophétique. C'est une religion qui reste protégée et qui reste intacte. Ça, c'est cette garantie qui vient par la conservation du Coran et la conservation des textes prophétiques, ce que les autres communautés, les autres adhiens, les Yahoud et les Nasara n'avaient pas eu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith, le prophète alayhi salatu wa salam a dit que inna min ashrati sa'ati an yurfa'a al-'ilmu wa yathbuta al-jahl. Parmi les signes de qiyama, c'est lorsque la science sera reprise du dunya. Lorsque la science religieuse, lorsque les gens n'auront plus de ilm shar'i, lorsque la science religieuse sera reprise à cette ummah et que l'ignorance va s'installer, alors ça, c'est un signe évident de la fin des temps. Parce que notre prophète alayhi salatu wasallam a expliqué, on va entrer dans trop de détails aussi, notre prophète alayhi salatu wasallam a expliqué comment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala peut reprendre la science religieuse de ce dunya. Le hadith qu'on explique bien que inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama. Dans ce hadith, c'est Bukhari, amma innahu laysa yunza'u min sudur al-ulama walakin yadhhabu al-ulama. Le prophète alayhi salat wa salam nous précise dans ces deux hadiths que Allah subhanahu wa ta'ala ne reprendra pas la science religieuse directement, mais Allah ta'ala procédera par le décès des savants. Ce n'est pas qu'il y a des gens qui ont la science et que du jour au lendemain, ils se retrouveront sans science religieuse. La wallah. C'est qu'Allah Azza wa Jal décidera que jusqu'à la fin des temps, les savants, les détenteurs de la science religieuse, les héritiers des prophètes, ils vont quitter ce dunya et ils ne seront plus remplacés. Ou même s'il y en a qui vont venir, mais n'auront pas le même potentiel de ilm, ce qui fait que ce qui nous rattache vraiment à notre religion, c'est-à-dire à la science religieuse, disparaîtra de ce dunya. Et depuis le jour du Eid, depuis la fin de ce mois de Ramadan, nous sommes tous d'accord que chacun parmi nous a été profondément choqué. Et nous restons encore choqués et profondément attristés par le départ d'un jeune moufti réunionnais, un moufti de Saint-Denis, qui a fait ses études dans les collèges et les lycées de Saint-Denis, qui a été la madrasa ta'alimul islam, qui a voué son dunya, sa vie, sa mission pour la propagation de la science religieuse dans des contrées parfois difficiles comme la grande île de Madagascar. Et nous parlons bien sûr du décès de Mufti Ilyas, rahimahullah, qui a quitté ce dunya à l'âge de 36 ans. Il n'y a pas une personne parmi nous qui n'a pas été profondément choquée et attristée du départ de ce trésor qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait accordé non seulement à l'île de la Réunion, mais son rayonnement était pour tout l'océan Indien. Et ça, mes chers frères, nous devons prendre réellement conscience que ça concrétise ce que notre prophète alayhi salatu wassalam avait annoncé, qu'à la fin des temps, Allah azza wa jal reprendra les savants. Et ces savants ne seront plus remplacés. Et le degré de science religieuse diminuera d'année en année, d'époque en époque. Mes chers frères, en islam, quelles sont les conséquences du départ, du décès d'un alim pour la ummah? Quand la ummah perd un médecin, quand la Ummah perd un chirurgien, on entendra plein de choses, que c'est un grand cardiologue, que c'est un grand pneumologue, ou peu importe. Mais quand la Ummah perd un de ses savants religieux, est-ce qu'on a conscience de ce que la Ummah est en train de perdre? Et nous ferons le lien également avec le décès de Moana, subhanallah, de Moana Panchbaya également, qui date de quelques mois, qui était un puits de science religieuse qui nous a quittés. Ça, mes chers frères, ce sont des signes évidents. Alors, lorsque la Ummah et à un de ces savants, il faut bien prendre conscience que c'est une des meilleures personnes qui quitte ce dunya. Quand notre prophète alayhi salatu wassalam a bien dit que lorsque Allah veut du bien pour une personne, yufaqihu fid din. Qu'est-ce qu'Allah lui accorde? Pas la richesse, c'est pas l'honneur, c'est pas la reconnaissance des gens. Lorsqu'Allah ta'ala veut du bien pour un être humain précis, pour Ilyas, pour Muhammad, pour Yusuf, pour Abdullah, Allah ta'ala accorde à cette personne-là la science et la compréhension de sa religion. Donc quand une de ces personnes, quand quelqu'un qui a cette qualité, qui a eu ce cadeau de la part d'Allah, quitte ce dunya, ça veut dire qu'une des meilleures personnes de cette communauté, de cette ummah, a quitté ce dunya. Lorsque la ummah, lorsque la communauté perd un de ses savants, c'est une des personnes les plus aimées par la totalité de la création qui est en train de quitter ce dunya. Car notre prophète, alayhi salatu wassalam, nous avait bien expliqué que lorsqu'une personne quitte son domicile pour aller apprendre la science religieuse, toutes les créatures font doua pour cette personne, même les anges, même les poissons qui sont dans l'eau. La métaphore est tellement forte qu'elle inclut même l'espèce animale, c'est-à-dire la totalité des créatures font doua pour cette personne qui fait quoi? Qui consacre sa vie à l'étude de la science religieuse dans l'objectif, l'unique but, l'unique objectif de le propager aux gens. Et également dans d'autres hadiths, il est dit également que la personne qui enseigne la science religieuse, le alim, la personne qui prêche, qui propage la religion, toutes les créatures font doua pour cette personne, même les anges. Déjà, cette vertu qui était pour ce alim lorsqu'il était talib al-ilm, lorsqu'il étudiait la science, après qu'il soit devenu alim ou mufti, quel que soit son grade, lorsqu'il accomplit sa mission, lorsqu'il va propager le ilm aux gens, la totalité des créatures font des doua pour mu'allimin nas al-khair, pour la personne qui enseigne le bien aux gens. La ummat qui perd un alim, qui perd un mufti, qui perd un savant, c'est une ummat qui perd un des héritiers du prophète alayhi salat wa salam. Quand notre prophète a bien dit que les prophètes, les anbiya, ne laissent rien aux gens si ce n'est la science religieuse. Et ceux qui ont pris le chemin des anbiya, c'est-à-dire ils consacrent leur vie à enseigner le ilm, le Coran et la sunna aux gens, ce sont eux les héritiers des anbiya. Les ulamas, ce sont les plus grands ennemis des shayatines. Parce que par la prêche du alim, par l'explication des gens, par l'explication aux gens du droit chemin et du chemin de l'égaré, les gens vont prendre conscience quels sont les pièges, quelles sont les tentations de shaytan. Donc il n'y a pas une créature de ce dunya qui est plus détestée par, par les shayatines que les ulamas. Parce que littéralement, il casse le travail qui est accompli par Iblis et par ses alliés. Également, lorsqu'un savant quitte ce dunya, c'est une personne qui a été qualifiée par Allah de Ahlu Khashyatillah qui quitte ce dunya. Parce qu'Allah Ta'ala vient dire dans le Coran que les gens qui craignent, qui ont vraiment la crainte d'Allah dans leur cœur, ce sont ceux qui ont la science religieuse. Et donc, quand une personne comme ça quitte ce dunya, c'est une calamité, c'est une catastrophe. Et c'est quelque chose qui est irremplaçable. Dans un hadith, on va être un peu plus bref, Aïcha, c'est une citation de Aïcha, radiallahu anha, elle dit que à chaque fois qu'un savant quitte ce dunya, ذَهَبَ بِمَا مَعَهُ مِنَ الْعِلْمِ, il quitte ce dunya avec une portion de sa science. C'est-à-dire que le trou qui est laissé, ce ne sera jamais comblé. Le départ d'un alim ne pourra jamais être remplacé, ne pourra jamais être comblé. Maintenant, la question qu'on peut se poser, que tout le monde s'est certainement posé, comment cela se fait-il qu'Allah Azza wa Jal puisse décider qu'une personne aussi jeune, qui profitait aux gens, quitte ce dunya? Mais où est la sagesse d'Allah? Ça, c'est l'être humain, le citoyen lambda. On pourrait dire le musulman qui réfléchit avec son esprit, on pourrait dire en guillemets cohérent, il peut se demander. Mais il y a bien des gens qui accomplissent des péchés. Il y a bien des gens qui font des choses qui portent préjudice à la communauté, mais ces gens-là continuent à vivre normalement dans des bienfaits, et une personne qui propage la religion, une personne qui essaie de ramener les gens vers le droit chemin, à un jeune âge, Allah Ta'ala décide de reprendre son ruh, de reprendre son âme. Mais quelle est la sagesse d'Allah dans ce genre d'agissement, dans ce genre d'action? On pourrait se poser la même question pour un de nos collègues qui depuis 7 mois est alité et qui est à l'hôpital, qui souffre énormément. Shafahullah, on peut se poser la même question. Quelqu'un qui a consacré sa vie au Coran et à l'enseignement, comment? Mais pourquoi? C'est pas comment. On peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'Allah Ta'ala décide d'envoyer une telle épreuve sur ces personnes, sur cette catégorie de personnes? Alors mes chers frères, ce genre d'épreuve, ce genre de souffrance que nous appelons dans ce dunya a une certaine connotation pour nous. Mais aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça revêt une toute autre valeur. Il faudrait pour cela revoir quelle est l'importance des épreuves, des difficultés dans ce dunya pour le musulman et comment cela, premièrement, élève son grade auprès d'Allah. On va dire en résumé. Deuxième point, il faudrait se rappeler ce hadith dans lequel le prophète alayhi salat wa salam a dit qu'une personne parfois est éprouvée par Allah. Éprouvée, mais tellement éprouvée. On regarde cette personne et dit que je ne me souviens même plus quand est-ce que cette personne est tombée malade. Et jusqu'à maintenant, il est encore malade. Cette personne lève, se réveille, et se rendant dans le taklif, dans les difficultés. On se demande, mais pourquoi est-ce qu'Allah Ta'ala, na'oudhu billah, pourquoi est-ce qu'Allah Ta'ala agit de la sorte avec son serviteur qui a la foi, qui a iman dans son cœur? Alors on n'a qu'à se rappeler ce hadith lorsque le prophète alayhi salatu wasalam a dit que ce genre de personne qui est énormément éprouvée du matin jusqu'au soir, Allah Ta'ala lui donne un tel degré, حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة رواه الترمذي, que cette personne voit son livret de péché, son livret de compte en permanence vidé de la moindre trace de dhunoub, de la moindre trace d'erreur. Et qu'est-ce qui est réservé à cette personne dans le hadith? Le prophète me dit que cette personne rencontrera Allah wa la hisab alayk. Cette personne de ce dunya, nous le voyons malheureux, nous nous attristons pour ce genre de personne éprouvée, mais le jour de Qiyama, la personne qui est éprouvée par Allah se présente devant le tribunal d'Allah, wala hisab alayh, sans qu'elle n'ait le moindre compte à rendre auprès du tribunal d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il y a ce hadith de base que nous devons comprendre et qui nous montre bien quelle est la différence qu'il y a en notre conception du dunya et ce qu'Allah Ta'ala veut du musulman. Ashaddu an-nas bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Les gens les plus éprouvés par Allah, c'était qui? C'était les prophètes. Et ensuite, c'est qui? Ce sont les gens les plus pieux, selon ceux dont le comportement et la foi se rapprochaient des prophètes, ben ils seront éprouvés un peu comme les prophètes. Yubtala ar-rajulu 'ala hasabi dinihi. فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلَابَةٌ زِيدَ فِي بَلَائِهِ. Ça, c'est un message très fort. Plus notre iman est fort, plus notre proximité avec Allah est proche, plus on a de proximité avec Allah, plus notre degré de pratique est accentué, plus l'épreuve sera difficile. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala éprouve un musulman en fonction de son iman. Et plus la personne fera preuve de sabr, plus Allah Ta'ala l'élèvera, mais on ne parle même plus d'élever, Allah Ta'ala le propulsera vers les plus hauts degrés du Jannat. Et nous nous devons également, deuxième point, de nous rappeler de la profondeur du verset « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Le prophète, alayhi salatu wassalam, apprend de la part d'une personne que sa petite fille est souffrante, elle est agonisante. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, envoie un émissaire dire à sa fille que inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Notre prophète alayhi salatu wassalam fait dire à sa fille que oh ma fille, sache que tout appartient à Allah. Si Allah reprend, sache que ça appartient à Allah. Quand Allah Ta'ala donne, sache que ça aussi ça appartient à Allah. Et tout ce qu'il y a de ce dunya a été créé par Allah pour un moment précis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une créature qui vient de ce dunya sans qu'il y ait déjà la date où la personne va retourner auprès d'Allah. Et notre prophète, alayhi salatu wassalam, encourage sa fille, c'est sa propre fille, de faire preuve de patience et d'espérer la récompense, la rétribution de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Message très fort que notre prophète, alayhi salatu wassalam, nous fait vivre, que nous musulmans, nous êtres humains, nous sommes de ce dunya, nous appartenons à Allah. Et Allah ta'ala, il est adl et hakim, il est juste et équitable. Si Allah nous a donné, si Allah nous a comblé de bienfaits, alhamdulillah. Si Allah nous a éprouvés par la maladie, par le décès d'un proche, par des épreuves de ce dunya, alhamdulillah. Nous remercions Allah parce que notre vie, tout ce qui nous appartient, tout ce qu'il y a sous nos mains, tout ça c'est la propriété d'Allah. Wa inna ilayhi raji'un. Et en finalité, nous retournons vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il aurait été souhaitable de voir l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam, comment lui-même, durant sa prophétie, comment lui-même a été maintes et maintes fois éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et également l'exemple de grands savants. On ne citera que deux savants de deux mondes musulmans distants géographiquement. On citera l'exemple de Cheikh Younous, qui est le plus grand, de Saharanpour, qui est le plus grand enseignant de Cheikh al-Hadith, le plus grand Cheikh al-Hadith dans le monde Hanafi, qui lui-même depuis des années est malade et se déplace en chaise roulante. Le plus grand Cheikh al-Hadith, celui qui a le plus de ilm de Bukhari Sharif, est éprouvé par Allah Azza wa Jalla, alors que c'est un waliyullah. Dans le monde arabe, on citera l'exemple d'Ibn Uthaymin rahimahullah, qui avant de mourir a été atteint d'un cancer qui s'est généralisé. Lorsque les médecins lui ont proposé d'avoir recours à la chimiothérapie, il était déjà très vieux, il a demandé aux médecins, si j'ai recours à la chimiothérapie, est-ce que je vais perdre ma barbe? Il a dit, oui, c'est sûr, cher, c'est sûr. Il a dit que je préfère vivre ces quelques joies de mon izzat plutôt que de retourner auprès d'Allah en perdant cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah azza wa jal lui a accordé la mort à Makkatul Mukarrama dans un immeuble en face du Haram Sharif. message très fort. Les grands personnages, les grands savants sont éprouvés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela nous doit nous faire comprendre, cela doit nous rappeler que mes chers frères, ce dunya, c'est quelques jours, c'est quelques semaines, c'est quelques années, mais ce n'est pas l'objectif. C'est un message que vous avez entendu des milliers de fois, mais qu'on le répète pour que cela pénètre nos cœurs. Nous sommes là pour quelques temps. Et l'objectif final, c'est quoi l'objectif? C'est quoi mon objectif à moi musulman, médecin? C'est quoi mon objectif à moi musulman, alim? À moi musulman, chômeur, père de famille, célibataire, 80 ans, 10 ans, 18 ans. Mon objectif, c'est quoi? C'est que le jour où Allah va appeler Ibrahim, fils de Abdullah, fils de Mohammed, pour être jugé devant le tribunal d'Allah, pour décider est-ce que Ibrahim mérite le Jannah ou Ibrahim mérite le Jahannam, qu'Allah Ta'ala ait pitié de moi et qu'Allah Ta'ala prenne la décision que mon livret soit remis dans la main droite et qu'Allah Ta'ala me fasse accéder au paradis. Et puis si j'étais blanc, si j'étais noir, si j'étais riche, j'étais pauvre, j'étais reconnu ou pas reconnu par la société, Wallahi l'azim, ça n'a aucune importance. Le plus grand izzat, c'est quand Allah vous appelle et vous dit, toi mon serviteur, tu es parmi les gens du paradis et va au paradis. Ça c'est le plus grand succès, ça c'est la plus grande reconnaissance pour le musulman. Et tout ce qu'il y a de ce dunya, les tromperies, les coups bas, les choses mauvaises, ça c'est pas grave ça. On finira par ce hadith qui est magnifique, qui doit réconforter chaque musulman et qui doit nous faire prendre conscience du décalage qu'il y a entre ma conception de ce dunya et la réalité du akhirah. Le jour du qiyama, Allah subhanahu wa ta'ala appellera l'homme le plus riche, l'homme qui a été le plus aimé par Allah de ce dunya, qui a été le plus comblé de faveur, le plus riche, le plus beau, le plus aimé, le plus célèbre. Et cette personne se verra mettre une seconde, on dit ram satan, une seconde, une fraction de seconde dans le Jahannam. Et Allah Ta'ala demandera, te souviens-tu d'un quelconque bienfait de ton dunya? Malgré qu'elle ait vécu 70, 80 ans ou plus, cette personne dira, là, wallah, je n'ai aucun souvenir des bienfaits. Et le cas contraire, Allah Azza wa Jal appellera la personne qui a été le plus éprouvée dans ce monde, le plus malade, le plus malheureux, le plus pauvre, l'homme le plus triste, l'homme qui a été le plus mubtala par Allah Azza wa Jal de ce dunya. Et cette personne verra une seconde, une fraction, ramsa, c'est-à-dire entrée-sortie immédiatement du Jannah. Et Allah Ta'ala lui demandera, c'est en arabe, c'est magnifique, hal ra'ayta bu'san qat, te souviens-tu des difficultés de ce monde? Fayaqulu la, oh Allah, je n'ai rien vécu de mal de ce dunya, tellement la vision, une fraction de seconde du Jannah remplira le cœur du croyant de bonheur. Ça c'est la réalité de ce du akhirat, et ça c'est le côté fana, le côté éphémère de ce dunya. Wa tawfiq illa billah, qu'Allah Ta'ala fasse raham pour Mufti Sab qui nous a quittés, pour Madame Moussa aussi qui nous a quittés il y a quelques mois, et qu'Allah Ta'ala donne la science religieuse à ces jeunes qui vont faire les études, et qu'Allah Ta'ala garde le ilm dans le cœur de chacun d'entre nous. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.